Racines et patrimoine en pays de Haute-Sarthe. Un magazine sur le patrimoine, les coutumes et les traditions. Une émission coproduite par Radio Alpes-Mancel 106.3 et Fréquencier 97.9. En partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe.
Tout connaître du chanvre. De sa plantation à sa récolte, en passant par la transformation et les produits finis. Tout connaître eh bien, des fours à chanvre que nous pouvons encore croiser au détour de nos routes dans notre région. Connaître l'aspect économique de ce travail en compagnie de deux personnes. Monsieur Roger Malassigné, président de l'association de sauvegarde des fours à chanvre, ainsi que monsieur André Courboulet, qui est secrétaire de cette même association qui est basée sur la commune de Toigné dans le canton de Marolles-les-Braux. Monsieur Roger Malassigné, vous en êtes le président de cette association et vous êtes également le fondateur de cette association. Présentez-la nous, elle existe depuis combien de temps ?
1994.
Alors cette association existe depuis 1994, vous en êtes le créateur, le fondateur ?
C'est pas tout à fait, oui, fondateur si on veut, mais il faut dire qu'il y avait dans ma commune, et j'étais maire à ce moment-là, un instituteur qui était très proche de nous et qui avait été passionné quand on lui parlait de chanvre. Et c'est à un moment donné, en discutant avec lui, qu'il m'a dit mais pourquoi vous n'essayez pas de faire une association des gens qui pratiquent encore, qui travaillent le chanvre? Parce que entre le pratiquer et le travailler, il y a une nuance. Hein. Il n'y avait pas tout le monde, tous les producteurs de chanvre ne travaillaient pas le chanvre. Donc on avait ce four à chanvre, et pour moi, gamin, ça m'avait passionné de dire, bah, tiens, à quoi sert ce four à chanvre? Et évidemment, dans une famille comme ça, on suit. Hein. Et moi, j'étais intéressé quand tout gamin, j'allais arracher un peu de chanvre dans le champ. Quoi. On était tous comme ça.
Alors justement, que représente le chanvre pour vous, monsieur Malassigné, et pour vous, monsieur Courboulet?
C'est-à-dire que le chanvre représentait vraiment un intérêt économique dans nos petites fermes, enfin, c'est les fermes moyennes de la région, parce qu'on disait qu'un hectare de chanvre donnait le même profit que 3 hectares de blé.
Alors ça, c'est vrai que l'aspect économique de cette culture, puisque au départ on parle de culture, est très importante. Ça faisait vivre donc visiblement mieux les familles que la culture du blé ou autre.
Oui, sûrement. Ça représentait beaucoup de travail. Aussi, chaque ferme ne pouvait pas en faire beaucoup parce que surtout au moment de l'arrachage et du rouissage. Il fallait beaucoup de monde.
Parlez-nous donc des principales étapes, d'abord de la culture.
Oui, bien, la culture du champ, ça a commencé par des labours, 3 ou 4 labours au printemps, afin de faire une terre très meuble qui se réchauffe assez facilement. Cette terre se trouvait vraiment meublée vers la fin de mai, début juin. À l'époque, la chaleur était venue et la terre était chaude, et c'était le moment de semer le chanvre. Parce qu'on disait que le chanvre devait lever en 3 ou 4 jours.
Et c'est vrai?
Oui.
Quelle est la graine qui donne le chanvre?
Oui, ben, je vais vous le dire, c'est le chènevis.
Et alors, quel est le temps entre 3-4 jours pour la levée du chanvre? Combien de temps pour entre le moment où on l'a semé et la récolte?
Il faut 100 jours. Au bout de 100 jours, le chanvre est bon à arracher.
Donc là, c'est l'étape suivante, l'arrachage.
Oui, alors à partir du moment qu'il est semé, jusqu'à l'arrachage, on ne s'occupe plus du chanvre. Parce que le chanvre avait cet avantage, c'est qu'il poussait très vite, il couvrait la terre, il étouffait les mauvaises herbes. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas question de traitement, ça n'existe point. Alors le chanvre, il poussait dans ses 100 jours pour arriver à une hauteur de 2 mètres, aux environs, 2 mètres un peu plus, un peu moins.
Voilà, alors là, c'est pour la culture, on est à la récolte, une fois que nous l'avons récolté. Et qu'est-ce qui se passe? On va passer dans la phase de la transformation.
Il y a des stades, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais le champ, parce qu'il n'était pas tout destiné à la graine. Hein. Il n'y avait qu'une partie qu'on gardait pour la graine. Alors l'autre, on l'arrachait pareil, et puis il partait plus tôt. Alors celui de la, pour la graine, on le maintenait un petit peu dans la terre, quoi. Et c'est que quand la graine était davantage formée qu'on opérait, quoi. C'est ça la nuance, quoi. Ah oui, on attachait beaucoup d'intérêt à préparer la terre, hein. Il fallait vraiment une terre très très bien préparée, et il fallait un certain degré de chaleur, hein. Parce qu'au fond, on ne se met pas tôt, hein.
Au début de l'été?
Oui. Le semis s'est effectué à partir du 25 mai jusqu'au 10 juin, disons.
Oui. La récolte, donc 100 jours après?
100 jours après, oui, fin août.
C'est ça, oui.
Et justement, à cette époque-là, fin août, quand on commence à l'arracher, c'est là qu'il y a une très, très forte période de travail. Parce que le chanvre, on l'arrache tout à la main. Alors, c'était souvent fait par des tâcherons, des ouvriers du village. Parce que le personnel de la ferme s'occupait, lui, à transporter le chanvre qui avait été arraché, à transporter ce chanvre-là à la rivière ou au ruisseau. C'est-à-dire pour l'emmener tremper pour assurer le ruissage de ce chanvre. Et ce ruissage, donc, qui était fait soit dans des espèces de morts qu'on appelait des ruisseaux ou à la rivière, ce ruissage durait autour d'une semaine. Alors, quand il était bien roui, d'ailleurs, pour le mettre roui, on faisait des sortes de radeaux que l'on chargeait de cailloux, de façon que tout le champ trempe dans la rivière ou dans le... Et au bout de 6-7 jours, bon, quand on voyait qu'il était bien roui, c'est-à-dire que l'écorce se décollait, que je dirais bien, de la paille qui est à l'intérieur, à ce moment-là, il était temps de le retirer. On devait tout le retirer poignée par poignée, le jeter sur la rive, et ensuite le transporter avec des tombereaux dans les champs où on l'étalait.
Pour le faire sécher.
Pour le faire sécher et le faire blanchir. Alors, au bout de 3-4 jours, suivant le temps, s'il faisait beau, on le retournait, et ensuite, 3-4 jours après, on le mettait en botte et on le rentrait dans les granges.
Il était stocké combien de temps dans les granges?
Vous voyez, on le mettait donc à partir de de septembre. Alors, c'est-à-dire que le mois de septembre, il passait tout entier à faire du chanvre, à s'occuper du chanvre. Oui. Alors, quand à la fin de septembre, c'était terminé, le chanvre était stocké dans les granges, et on n'y touchait plus jusqu'à l'hiver. Parce que dans les fermes, il y avait autre chose à faire que du chanvre. Il y avait les pommes à ramasser, les betteraves, fallait faire les semis de blé, et on attaquait le broyage du chanvre qu'à moitié de décembre.
Racines et patrimoine en pays de Haute-Sarthe. Une émission coproduite par Radio Alpes-Mancelles 106.3 et Fréquence Sillé 97.9 en partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe.
Alors à quel moment, messieurs, les fours à chanvre rentrent en scène? À quel moment on pénètre dedans?
Eh bien, juste au moment qu'on va commencer le broyage, on va chercher le chanvre dans les granges. Environ une centaine de bottes, on remplit le four de ces bottes-là, c'est que ça remplit le four. Et les bottes sont mises tête bêche dans le four, moitié de pied en l'air, moitié de pied en bas. Et quand le four est bien plein, bon, enfin, on le ferme, et c'est là qu'on met la chaudière de coque en dessous du chanvre.
Alors quand vous parlez de chaudière de coque, c'est quoi les coques?
Coque, c'était un produit qui est obtenu à partir des usines à gaz. C'était un coque léger, enfin un charbon léger si vous voulez, et on chauffait les fours avec ça, parce que ça ne faisait pas de flamme très haute et ça chauffait dur.
Et alors pendant combien de temps le chanvre reste dans les fours?
Mais il reste une nuit, alors il est bien chauffé toute la nuit, et le lendemain matin, on attaque, on sort les bottes une à une pour le passer dans des cylindres, dans la broyeuse qu'on appelait, enfin oui. Dans la journée, on passait les 100 bottes qui étaient dans le four.
Voilà, un four, en moyenne, contenait toujours une centaine de bottes.
Une centaine de bottes, oui.
Et alors, une fois qu'il était passé à la broyeuse, là, oui. comment ça se passait pour les agriculteurs qui produisaient ce chanvre, qu'ils produisaient et qu'ils faisaient une première phase de transformation?
Oui, eh bien, quand on parlait du broyage, dans l'atelier, il y avait 4 ou 5 personnes. Il y avait donc quelqu'un qui passait les poignées une à une dans les cylindres, l'autre qui les reçoit par l'eau de boue quand elles sont bien écrasées. Déjà, beaucoup des chenevottes, enfin la graine, pour la graine, mais ce qu'il y a à l'intérieur du chanvre. Alors le gars à l'eau de boue, il reçoit les poignées, il les secoue, et ensuite il les remet sur un trépied que deux autres ouvriers viennent chercher poignée par poignée pour les passer dans des broies. C'est-à-dire qu'il s'est actionné à la main. Et puis, des fois, le cinquième, qui était là, ben, faisait un peu tout, enlevait les graines qui étaient en dessous, toutes les, puis aller chercher les bottes de chanvre dans le four.
Alors, quand tout ce travail était fait, il était conditionné comment, le chanvre?
Ou bien, sitôt que les poignées étaient sorties, puis que les autres broyeurs, ils avaient toutes repassées pour enlever les dernières paillettes qu'il y avait à l'intérieur. Après ça, ils les mettaient sur des... On appelait ça une fourche, nous. Enfin, c'était des doigts qui étaient... On faisait des... Alors, chaque poignée était entortillée autour d'un doigt de cette fourche. Et quand il y avait 24 poignées là-dedans, ils étaient attachés et mis de côté. Et à la fin de la journée, eh bien, toutes ces paquets de chanvre qui ont été faits, là, de chanvre broyé, on allait les ranger dans une pièce. Et après ça, c'était fini pour nous, le travail du chanvre.
Alors, il était revendu?
Oui, il était vendu quelques mois après.
Et là, ce chanvre était encore une fois retravaillé, retransformé. Ça donnait quoi au final?
Ben pour nous, le final, c'était quand on le livrait au printemps.
Le chanvre servait à quelle fabrication?
Ça s'en allait surtout pour faire des bâches ou des toiles, des grosses, des sacs.
Donc des bâches, des toiles, des cordes.
Des cordes, oui, des cordages.
Et du linge de maison. Alors on va revenir sur les fours à chanvre et plus exactement donc leur architecture. Les premiers fours à chanvre ont été construits à quelle époque?
Ben on dit vers 1850.
Oui. Alors là apparaissent donc les premiers fours à chanvre. Ils sont tous construits de la même manière.
En gros, oui, c'est toujours le même système de toute façon.
Alors ils ont toujours cet aspect rond.
Oui.
Alors il y en a des différents. Il y en a des carrés.
Oui, quelques-uns à Marolles, même, enfin dans le canton de Marolles, quelques-uns, oui.
Essentiellement des carrés dans le canton de Marolles-les-Braux.
Oui.
La plupart sont ronds.
La plupart sont ronds, oui.
Pourquoi y en a-t-il des carrés dans le canton de Marolles-les-Braux?
Ben, on a dit, c'était parce qu'il y avait des cimentiers italiens qui étaient venus dans le coin, qui avaient fait ça, mais j'en sais rien.
Alors, ces fours, alors, faites-nous un plan pour qu'on puisse s'imaginer comment étaient construits ces fours. Ils avaient, bon, bien sûr, les parois, c'est rond à l'intérieur également. Il y a un toit. Alors, comment ça se passe? Expliquez-nous ça. On le construit ensemble. Ça
oui.
Donne quoi?
Eh ben, ça donne une tour qui fait oui. 400 mètres de haut. Oui. Et la toiture, ils sont des fois aussi très différentes les unes des autres. Il y a des toits à plusieurs pans, mais la plupart, quand même, c'est des toits ronds, hein, des cônes. Alors, il se compose donc d'une partie basse, c'est la partie chauffage, qui mesure entre 1,70 m et 1,80 m. Ensuite, la partie... pas comment appeler ça, mais
on fait le séchage,
oui. Alors, on met la centaine de bottes de chanvre. Et au-dessus, bon, il y a encore un petit plafond. Et au-dessus, il y a... encore un reste de toiture qui ne sert à rien.
Voilà, ça, on pourrait le comparer à un grenier, grenier du four à chanvre.
Oui, mais c'est assez haut, puis c'est petit, il n'était jamais rien mis dedans.
Voilà, c'est de l'espace perdu. Alors comment ça se passe? Il n'y a pas d'escalier à l'intérieur du four à chanvre, c'est-à-dire qu'entre la partie basse et la partie haute...
Ah non, il n'y a rien, il n'y a qu'une... une grille au-dessus de la partie chauffage, là. Une grille, et puis cette grille-là, elle laisse passer la chaleur. Mais au-dessus de la corbeille de coq qui fait la chaleur, on met une sorte de couvercle.
C'est un coq spécial hein, qu'on avait pour chauffer le
une sorte de couvercle qu'on mettait au-dessus, enfin, qu'on appelait un étoupoir, je ne sais pas pourquoi. Mais... ça a évité d'abord aux flammes de se rapprocher trop près de dessus. Et puis ça a étalé la chaleur, c'est davantage encore.
Donc voilà, on a un petit peu l'aspect intérieur des fours à chanvre. Alors, votre association en a recensé combien dans la Sarthe?
On a recensé 550.
Oui.
550. Et à l'origine, il y en avait combien?
Ah oui, il y en avait peut-être le double.
Peut-être, oui. Oui. Peut-être très bien. Oui.
La plupart sont dans le domaine privé?
Oui, ils ont...
Oui, absolument.
Absolument, oui.
Et il y en a eu beaucoup donc qui ont disparu faute bien d'entretien.
Quand, dans les années 60, quand on a vu que le champ c'était fini, beaucoup ont dit ça, le champ c'est fini, on n'en parle plus, et puis alors on a commencé à les démolir.
Alors aujourd'hui, sur les un peu plus de 500 qui restent, il y en a-t-il qui sont plus remarquables que d'autres en termes d'architecture, en termes de construction?
On a vu dans la région de Conly, et c'était pas tout à fait les mêmes toitures, c'était des toitures arrondies, c'était pas couvertes en ardoise ou qui ne ressemblent pas aux nôtres.
Aujourd'hui, les fours à chanvre qui sont sur les propriétés privées, hormis le fait de continuer à faire vivre l'histoire, est-ce qu'ils ont une utilité? Est-ce qu'on les a transformés? Pourquoi pas en faire une pièce à vivre?
Oh. Il y a quelques réalisations, mais très peu. Ils sont restés là.
Donc il y a très, très peu de personnes qui ont souhaité leur donner une deuxième vie en les aménageant.
Très peu. Enfin, si, quand même, pour les dire que... On a un ancien collègue, là, qui est décédé maintenant. Il avait fait un salon dans son four à chanvre.
J'ai omis de vous demander quels étaient les matériaux utilisés à la construction des fours à chanvre.
Oh, c'était des cailloux et ciment même. Chez nous, moi, c'était un très vieux chez nous, il était fait entièrement en terre.
Oui.
En torchis. Oui.
Donc c'est beaucoup plus, moins résistant peut-être.
Oui, moins résistant. Puis alors surtout, ceux-là, si un incendie avait pris dedans, il ne restait rien.
Ça faisait un feu de paille.
Oui, ça faisait.
Oui, il y a eu beaucoup d'incendies.
Hein. Oui, il y en a quand même eu beaucoup.
Il fallait faire très attention. Quand le soir, on avait rechargé la partie haute, alors on nettoyait le bas. À côté de la chaudière, là, enfin de la corbeille, quoi. Et on faisait très attention parce que c'est vrai que j'avais eu pas mal d'incendies.
Il fallait qu'aucune tige ne déborde de la grille, sinon ça descendait au-dessus du... C'est comme ça souvent que le feu prenait. Donc...
Aujourd'hui, le chanvre n'a pas complètement disparu des cultures. Aujourd'hui, messieurs, est-ce que vous pouvez me dire à quoi sert le chanvre maintenant? À quoi il est utilisé?
Bon, pour la plupart, je crois qu'il sert à faire des pâtes à papier, du papier fin. Et puis il sert aussi... Une partie sert aussi maintenant à faire des produits de...
Des cosmétiques aussi.
Oui, mais c'est des graines, ça.
Ça, c'est les graines.
Oui. Ah oui, d'accord.
Alors, pour nous rendre compte de l'importance du chanvre dans notre région, quelqu'un qui produisait du chanvre, d'ailleurs, sur quelle surface, ça rapportait combien?
On pensait que un hectare de chanvre faisait le même rapport que 3 hectares de blé.
Donc en termes d'argent.
En termes d'argent, oui. Bon, et évidemment, il y avait beaucoup plus de frais qu'à faire du blé. Hein, c'était
beaucoup plus de travail.
Oui, beaucoup plus de travail.
Et un savoir-faire.
Oui, savoir-faire aussi. Mmh.
Et un investissement, puisqu'il fallait construire le four à chanvre. Pour les premières étapes de la...
Oui, c'est vrai.
Il y en avait qui étaient déjà présents. On dit que ce sont des Italiens qui les ont construits, les fours.
Alors, selon certaines informations, on dit que le chanvre a été introduit très tôt, au 6e, 7e siècle. Mm-hmm. La culture du chanvre a connu son apogée autour de 1850 à 1860, d'où l'apparition donc des fours à chanvre. En Sarthe, le déclin de la culture à chanvre a été progressive, mais on dit que le chanvre est une plante fascinante et un petit peu baignée de mystère.
Oui, vous voyez, mon ami là, Roger, il disait c'était presque une religion là, le chanvre.
Monsieur Roger Malassigné, je rappelle que vous êtes président de l'association de sauvegarde des fours à chanvre, accompagné de monsieur André Courboulet, qui est secrétaire de cette même association basée sur la commune de Thoigné. Je vous remercie.
Racines et patrimoine en pays de Haute-Sarthe. Un magazine sur le patrimoine, les coutumes et les traditions. Une émission coproduite par Radio Alpes-Mancelles 106.3 et Fréquence Sillé 97.9 en partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe. Cette émission a été préparée et présentée par Valérie Poulain
et réalisée par Jean-Michel Pantier.